MCI TV vous présente l'émission Face à Face. Dans ce Face à Face avec Yannis Gauthier, vous serez encouragé et fortifié dans votre foi.
Hello, hello mon ami, heureux de te retrouver pour une nouvelle émission Face à Face. Et j'ai envie de dire que cette émission, elle va être spéciale. Alors coupe ton téléphone, appelle les membres de ta famille et mets-toi devant ton écran, ta télé, pour regarder cette émission, parce que on a quelqu'un qui a un témoignage particulier. C'est un ex-membre du cartel de Cali, un ex-narcotrafiquant. Il s'appelle Octavio et on est heureux de l'accueillir. Bonjour Octavio.
Bonjour Yannis, bonjour à tous. Une joie de pouvoir partager ce temps avec vous.
Merci. Alors, à ton accent, on sent bien que tu es colombien et tu faisais partie du cartel de Cali.
Oui, tout à fait. Je viens de la troisième ville de la Colombie, que c'est Cali. Et si on est là dans ces années 80-90, Cali, c'était l'une des villes qui était très, très, très dedans dans tout ce qui était le narcotrafic, avec une autre ville de la Colombie, Medellín. Donc, c'était les deux villes pionnières du narcotrafic national, mais malheureusement au niveau mondial aussi.
Alors, quand on parle de narcotrafic, de cartel, nous, forcément, on se plonge dans certaines séries Netflix, mais j'imagine que ça va au-delà de ça. Et c'était quoi ta vie? C'était quoi ton quotidien?
Figure-toi que plusieurs jeunes, parfois, ils m'approchent et me disent « Est-ce que c'est vrai ce qu'on voit en Narcos dans la série ?» Et moi, je le dis « Oui ». C'est la réalité, parce que moi, j'étais là-dedans, et c'est la folie, parce que quand on est dans ces milieux-là, on peut voir toutes sortes de folies. L'argent, la violence, la drogue, tout ce qui constitue le narcotrafic, c'est quelque chose qui est toujours dans les extrêmes. Donc, les personnes qui sont dans ces milieux sont aussi dans les extrêmes, dans le niveau des violences. Il n'y a pas des cris, c'est vraiment noir ou blanc.
Alors, quand on parle de cartel, on parle d'organisation criminelle, mafieuse. T'étais qui, toi, dans cette organisation?
Alors, au début, je suis un jeune homme avec beaucoup de soif de pouvoir. J'ai envie de me faire reconnaître. Je viens de vivre une saison difficile dans laquelle mon beau-frère est mort dans ces milieux-là. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas prendre sa relève? Pourquoi pas te faire connaître? Je suis un jeune qui finalement a envie aussi de pouvoir se faire reconnaître. Et je tombe sur ces milieux de cartel qui t'offrent une espèce de famille. Donc, j'avais de certaine manière une aspiration et en même temps, ils avaient pour moi une offre. L'offre de quoi? L'offre de pouvoir me dire, avec nous, tu vas trouver une famille, tu vas trouver du pouvoir, tu vas trouver l'argent, tu vas trouver la protection. Et moi, j'aspirais qu'à ça. Donc, du coup, je rentre petit à petit. Et dans ces milieux-là, tu ne peux pas rentrer juste d'un seul coup et te positionner en haut. Tu dois faire preuve.
Et c'est quoi les preuves que tu dois faire?
Alors, d'abord, il ne faut pas avoir peur d'aller frapper une autre personne. Il ne faut pas avoir peur de même jusqu'à aller la tuer. Il ne faut pas avoir peur de la police, de tout ce qui se passe dans ces milieux, parce qu'il faut que tu montres que tu es capable de gérer tes émotions. Il faut que tu montres aussi que tu es fiable, mais que tu es loyal aussi à cette organisation. Donc, petit à petit, ils te font comprendre que du côté familial, tu passes à une organisation sérieuse qui peut facilement oublier que c'est la famille, mais que tu peux aussi payer par ta vie tes erreurs. Et là, je vais venir sur cette phrase qu'on entend souvent justement dans la série, c'est « plata au plomo ». Là, je me suis rendu compte que « plata au plomo », c'est toute une philosophie. Ça signifie soit tu es conscient que tout ce que tu vas payer, tu le fais bien, ou sinon tu vas le payer par ta vie. Plomo, c'est une balle. Tu te prends une balle ou tu fais les choses bien pour que tu sois bien payé et pour que tu vives bien.
Donc, tu es une sorte d'homme de main, c'est ça, ou un donneur d'ordre?
Alors, au début, quand je rentre Et je suis tout en bas. On va me faire me confier des missions dans lesquelles je vais aller avec, à ce moment-là, mon beau-frère, il était aussi là avec moi, dans lesquelles je vais l'accompagner à lui. Il m'utilisait un petit peu comme, je le couvrais un peu, c'est-à-dire un bouclier, parce que le fait d'avoir un jeune avec lui, très très jeune, il pouvait rentrer plus facilement dans son lieu. S'il y avait la police, ben, il voyait un gars avec une jeune, bon, il n'y a rien de bizarre, on le laisse passer. Mais petit à petit, je me suis rendu compte qu'il m'utilisait parce qu'il me passait de l'argent. Et je me disais, mais pourquoi il me donnait de l'argent? Et c'est là que j'ai découvert que dans ses voyages, en tant que bouclier, ben, il était en train de m'utiliser. Et moi, j'ai commencé à jouer les jeux, mais je n'ai pas voulu rester là. Une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est décédé, je voulais aller beaucoup plus loin. Et c'est là que j'ai frappé à la porte des chefs de cartel pour leur dire, eh oh, est-ce que vous pouvez me faire une petite place à moi dans ce milieu? C'est là que je me suis rencontré dans des rendez-vous, on appelle en Colombie ça las fincas. C'est-à-dire des grosses maisons avec la piscine, avec les luxes qu'il faut. Et là, tu rencontres les capos, c'est-à-dire les chefs de cartel qui te jettent l'argent comme ça et en même temps ils peuvent sortir une arme et te tuer juste pour le plaisir. Donc dans ces milieux-là, il fallait que je fasse preuve et ils m'ont invité à faire une mission d'abord, des missions que je faisais en train d'accompagner des personnes pour faire des lavages d'argent. Parfois on amenait aussi de la cocaïne, mais je voulais pas rester là, je voulais aller beaucoup plus loin. Et c'est là où malheureusement, je veux dire, j'ai vu beaucoup de jeunes qui voulaient aller très loin, mais qui finalement ils s'étaient tués aussi dans ces milieux-là. Mais je me suis dit, je vais continuer, c'est pas grave si je suis né pour devenir quelqu'un d'influent dans les cartels. Il faut que j'aille jusqu'au bout.
On attribue un nom à tes fonctions. C'est quoi tes y a un nom pour vous reconnaître les gens comme toi là qui sont derrière ces mafieux?
Non. Le seul nom qui on avait attribué, on n'avait pas les droits d'avoir. On avait plutôt des. On s'est donné des noms pour rigoler. Mais les seuls noms qu'on donnait vraiment comme une fonction aux gars qui sont arrivés très haut, on les appelait barons.
Les barons.
Barons de la drogue, comme par exemple Pablo Escobar, c'est eux qui pouvaient avoir des noms comme ça reconnus. Nous, c'était plutôt la rigolade, là, comme ça.
Et c'est quoi ton... Raconte-nous une de tes journées, comme voilà, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais?
Alors, une journée normale dans ce milieu-là, c'est... il y a eu 3-4 kilos de cocaïne qui doivent être livrés quelque part. Et la personne à qui on a envoyé à faire cette livraison, toi, Octavio, tu dois regarder si toute la mission a été bien faite et surtout s'il n'y a pas eu de petits problèmes de pertes. Quand on parle des pertes, c'est parce que des fois, certaines personnes qui travaillaient dans ça, ils pouvaient prendre, se dire, allez, je prends 10 grammes, 20 grammes de côté, et ça ne va pas se voir. Et quand j'étais en train de surveiller que tout s'est passé bien, je faisais des appels pour savoir si l'autre personne avait bien tout réceptionné. On me disait, écoutez, il manque 10, 15, 20 grammes. Une fois, ça m'arrivait qu'il y avait quelqu'un qui avait fait perdre quelques grammes, et bien mon boulot c'était prendre cette personne, l'amener dans la maison dans laquelle on l'a recadré, et dans cette maison, imagine-toi toute la violence, on frappait la personne, on les faisait comprendre que ces petites erreurs, on pouvait le payer jusqu'à la mort. Donc voilà, on devait montrer qu'on était loyal, et aussi que même si j'étais jeune, je n'étais pas là en train de jouer.
Alors, comment tu te positionnais face à la police, face à tes ennemis? Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup d'ennemis également. Et puis, la police était là aussi pour faire son travail. Donc, comment tu te positionnais dans cet environnement-là?
Il y avait beaucoup d'ambiguïté, figure-toi, parce qu'à l'époque, on parlait de la police, mais la police était malheureusement dans la corruption. Donc, il s'était corrompu. Du coup, dans mes souvenirs, on avait un gars qui travaillait à la police, mais qui, en même temps, on l'a payé pour qu'il nous garde. Ça veut dire que c'était double. Des fois, on pouvait se rencontrer dans un barrage avec une équipe, une patrouille de policiers là, Et en même temps, si on avait quelques dollars sur nous, on pouvait leur dire, écoutez, laissez-nous passer, vous n'avez rien vu, tenez ça. Et on pouvait tomber sur des polices qui pouvaient vraiment pas accepter tout ça. Et là, c'était la catastrophe parce que on pouvait se tuer. Il y avait l'arme qui on devait sortir l'arme, et riposter et tout ça. Mais bon, jusqu'à là, on n'a jamais arrivé à ça parce que la plupart des fois, on passait de l'argent, ça marchait.
Et face à tes ennemis, quand on voit à la télé parfois les punitions qu'on donne dans certains cartels, certaines personnes qui sont malheureusement tuées, enterrées ou exposées, est-ce que c'est vrai ça?
Alors c'est cruellement, il y a beaucoup de violences et c'est choquant parce que il y a des fois là où j'habitais, on avait une stade de foot pour faire du sport et des fois certains matins quand on se réveillait, on avait des sacs de poubelle avec des morceaux de corps, des membres qui étaient là. Donc on savait que c'était des règlements de compte. La plupart de ces personnes qui étaient là, des membres, mais c'était aussi des messages envoyés. Parfois, dans les sacs de poubelle, avec une tête, avec des bras, c'était écrit un message, voilà, de tel cartel, celui-là, on l'a mis comme ça parce qu'il n'a pas su tenir ses engagements, ou parce qu'il a trop parlé, ou parce qu'il a volé. Donc, on savait que dans ce milieu-là, il fallait aussi être très méfiant et en même temps, droit dans nos baskets, dans nos engagements. Si je m'engageais à faire telle chose, une mission, il fallait que je tienne mes paroles jusqu'au bout.
Octavio, tu marches avec une arme à la main, tu fais partie d'une pseudo-organisation. Je dis une pseudo parce que tu me parles de famille, mais bon, on sait très bien comment on traite les membres de sa famille parfois. Mais est-ce que tu es conscient dans ce milieu-là que tu risques ta vie tous les jours?
Je pris conscience petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais me réveiller les matins, mais je savais pas si les soirs, j'allais être en vie. Donc, du coup, oui, j'ai pris conscience de ça parce que quand j'ai vu plusieurs, camarades, copains, moi, qui sont morts, qui ont été supprimés, eh ben, je me suis dit peut-être que ça sera à toi. Et donc, essaye de vivre ton jour après jour.
Il y a un moment donné où tu as vécu quelque chose de choquant qui t'a marqué. Vraiment, tu t'es dit, ouais, c'est hyper violent, quoi.
Oui, je pense que les deux choses qui m'ont marqué, il y a eu deux choses qui m'ont marqué, c'était quand j'ai vu un jeune homme qui était avec moi, très jeune homme, il n'avait pas plus de 15 ans, mais il avait déjà commencé à travailler dans ce milieu-là. C'est lui qui a porté d'un quartier à un autre quartier les kills de cocaïne. Il a laissé perdre vraiment quelques grammes et il était là avec moi en train de boire tranquillement. On était en train de prendre dans une boulangerie une boisson. Il y a un jeune qui arrive dans son scooter, il sort de son scooter, il prend une arme, il tire sur lui, boum boum, de manière très froide. Mon copain tombe par terre. Moi, je vois que le sang coule, qu'il est en train de mourir là. J'ai pas le temps de réagir parce que autant je regarde mon copain, je regarde le jeune qui est là devant moi. Le jeune prend son arme, il me regarde, il me dit, tu as rien vu, non? Alors moi, je lui dis, non, t'inquiète pas, tu peux partir, j'ai rien vu. Il prend son scooter et il repart. Ça m'a choqué parce que c'était quelqu'un qui était pas juste au loin, mais proche de moi. Et là, je me suis dit, ça rigole pas. La deuxième chose qui m'a aussi profondément traumatisé, c'est ce que je parlais tout à l'heure. Dans cet stade de foot, on allait juste parfois passer un bon moment là. Et bien, d'un seul coup, on voyait des sacs de poubelle avec des corps des membres. Et là, je me disais, vraiment, il faut être très méchant pour faire des choses comme ça. Alors, Octavio, attention, parce que tu es dans un milieu dans lequel on ne joue pas. Ça pardonne pas et ça va très très loin.
Très méchant pour faire ça, mais tu sais quand même dans ton fort intérieur que peut-être que demain on va te demander de faire ça.
Et c'était ma peur.
C'est ta peur. Mais quand je t'entends parler, j'ai l'impression que t'es sans famille, orphelin, Parce que tu parles de famille, de substitut, tu es à la recherche d'une famille. Tu avais une famille à cette époque, des parents, des frères, des sœurs, une mère, un père, personne?
Oui, j'ai ma famille là, mais on est très disloqué à ce moment parce que mes sœurs ont des histoires difficiles, elles ont quitté la maison, elles vont partir. Mon frère aussi, j'ai deux grands frères, ils sont aussi loin, ils partent. Donc finalement, je reste presque tout seul dans une période de ma vie avec mes parents. Mon père, il va avoir un accident très grave, donc il va rester couché au lit. Il faut savoir qu'en Colombie, c'est pas comme dans notre pays, que la sécurité sociale, si tu as un problème, tu vas de suite et on te prend. Là-bas, si tu es dans un hôpital, tu es en train de mourir et tu montres pas l'argent, on te prend pas. Et donc, mon père, malheureusement, il a eu une situation très difficile de santé et un accident. Il a fallu qu'il reste à la maison plusieurs mois, presque handicapé. Et c'est dans cette période-là qu'il fallait que je prenne aussi, de certaine manière, soin d'eux. Oui, j'étais presque livré à moi-même.
Mais le regard que tu avais sur tes parents et notamment sur ta maman, elle n'était pas aveugle quand même, elle voyait bien ce que tu faisais.
Elle voyait ce que je faisais, mais c'était une maman qui venait de la campagne, donc une maman très discrète. Tous les sentiments, toutes les choses qu'elle pouvait vivre, elle les gardait pour elle. La souffrance, mais je savais qu'elle souffrait énormément pour son fils. Et en même temps, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voyait juste les choses se passer. Et c'est après, quelques années après, que je me suis rendu compte qu'elle-même, elle me l'a dit quand j'ai quitté tous ces milieux-là et qu'elle est partie à la Colombie aussi, qu'elle m'a dit, ah, mon fils, si tu savais combien Dieu versait des larmes pour toi. Mais voilà, tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur toi dans ces milieux.
Tu vends de la drogue, tu consommes de la drogue?
Je pense que c'est l'une des choses qui m'a gardé, le fait de ne pas tomber dans la consommation. Et pourtant, j'avais devant moi des kilos de cocaïne, de drogue. Et j'ai goûté, mais j'ai testé, mais je ne suis jamais tombé dans l'addiction. Alors que certains membres de ma famille sont tombés dans cette addiction.
Alors quand on t'écoute, forcément, on a l'impression de voir un film, hein, un film en direct. À quel moment ça va prendre fin, tout ça? Parce que normalement, la fin, on la connaît, c'est le cimetière. À quel moment, toi, tu vas toucher le fond et tu vas te dire non, faut que j'arrête?
Il fallait que je sois vraiment confronté à justement l'effet de me dire est-ce que c'est ma journée dans laquelle je vais peut-être mourir? Et c'est ce qui va se passer. On m'avait appelé pour prendre une mission dans un champ de cocaïne et d'amener cette mission du début jusqu'à la fin. Et on était vers la fin. Tout s'est vraiment bien déroulé. On avait fait un beau travail. Les gars qui travaillaient avec moi étaient responsables. Donc, disons qu'on allait avoir une belle récolte.
C'était quoi la mission, sans te couper?
Oui, la mission, c'était de prendre un camp de cocaïne et travailler la feuille de cocaïne, la processer et puis après l'amener dans un laboratoire artisanal pour la prendre la matière première et puis après la faire passer dans les villes. C'était tout ce processus. Donc, on avait passé la première étape, plusieurs mois, semaines, c'est très bien passé. Et à la fin, on m'a dit, si tu veux faire preuve que tu rentres dans un niveau supérieur, tu vas maintenant prendre cette matière qui est déjà presque terminée avec une autre collègue à toi et tu l'amènes dans un laboratoire artisanal qui se retrouve à plusieurs kilomètres de là où on l'avait très travaillé. Donc, du coup, je me suis dit, waouh, je suis dans la dernière ligne à droite. Je vais quitter ce lieu dans quelques semaines. Je vais partir avec de l'argent, avec du pouvoir, avec de la reconnaissance. C'est génial. Donc, du coup, je prends avec mon collègue cette matière première et on commence à marcher pour la ramener dans le laboratoire artisanal. Mais j'avais entendu dire que dans cette forêt, il y avait des guerrilleros. Les guerrilleros, c'est leur champ de chasse. Donc, ils vont peut-être, s'ils tombent sur un laboratoire, s'ils tombent sur une plantation, ils vont prendre ce qui les intéresse, ils vont tuer tout le monde.
Juste.
Donc, c'est un risque.
Pour qu'on comprenne, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un laboratoire, comment ça se passe, sans forcément rentrer dans les détails, et qui sont exactement les guerrieros?
Ok. Alors, un laboratoire, c'est disons que... Et la finalité de tous les processus quand on élabore la cocaïne. Quand on arrive au laboratoire artisanal, ça veut dire que là, tous les processus de faire croître la feuille de la cocaïne, de pouvoir aussi la récolter, de la sécher, de faire encore un processus avec des chimiques pour qu'elle devienne cette poudre, c'est là qu'on l'amène au laboratoire artisanal.
Et c'est
là
quoi l'ambiance avec les gars là-bas? Comment ça se passe avec les gars là-bas qui sont déjà sur place?
C'est des gens qui sont de la campagne, donc c'est des gars qu'on n'attend pas grand-chose d'eux. Ils sont contents de faire ce petit boulot qui va leur rapporter de l'argent, mais c'est des gens locaux. D'accord. Donc on les fait confiance parce que c'est des gens très naïfs, et donc on peut les manipuler, et on peut les faire peur, leur dire du bon boulot, vous ouvrez pas la gueule devant les gens. Voilà, donc on les soumet facilement.
Donc il y a les guerrieros, c'est qui? C'est l'armée, c'est quoi?
Et à l'époque, en Colombie, il y avait un groupe paramilitaire qui s'appelait la FARC. C'était la force révolutionnaire et paramilitaire parce qu'ils étaient en contre de la politique du pays. Donc, ce groupe de guerrilleros se sont réfugiés loin de la ville. Et leur terrain pour s'entraîner, pour survivre, c'était la forêt. Donc, ces gars-là, comment ils vivaient? Ils extorsionnaient les petits villages, ils volaient. Et justement, quand il y a eu cette saison dans laquelle il y avait beaucoup de laboratoires de cocaïne, s'il tombait sur un laboratoire de cocaïne, il pouvait tuer et voler les choses.
Donc, tu vas faire face à eux.
On était au risque. Oui, on était au risque. Donc, avec mon collègue, on part, on marche, on continue à marcher. Et là, au bout de quelques minutes, il me tape, il me dit « Octavio, fais ta dernière prière ». Et là, je me suis dit « Ah non, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « Ils sont là, les guerrilleros ». Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible que ça tombe sur nous. Et là, je vois que mon collègue, il transpire, il devient très pâle, il tremble, et je me dis, c'est sérieux ce qui va se passer là. Et là, quand je les regarde, ils sont 3-4 devant nous, ils sont prêts à tirer sur nous. Et là, je sens que ma vie défile dans quelques secondes. Je suis là au milieu de la forêt, je sais pas si je vais mourir comme un chien là tout seul, parce que c'est ce que je pensais. Mais en même temps, au fond de moi, il y a une espèce de cri qui sort. Je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être c'est une prière. Et je dis, si tu existes, s'il y a un Dieu qu'il y a là-bas en haut, s'il y a une force, s'il y a quelque chose, s'il te plaît, fais-moi un signe. Montre-moi que tu existes, mais je ne vais pas mourir là, donne-moi une autre chance. C'était cette courte prière que je fais là comme ça. Et quand ces gars-là ont essayé de tirer sur nous, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Le seul mot que je peux mettre à ça, c'est un miracle. Les armes se sont enrayées. Ça veut dire, Yanis, que quand ils sont tirés, ça sonne plaque, mais ça sortait pas. 1, 2, 3, 4, ils sont là, ça marche pas. Les gars, ils étaient tellement choqués de la situation qu'ils sont restés comme paralysés. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir contre nous, ils vont nous tuer à coups. Nous, on marchait, mais ils étaient paralysés. C'est comme s'il y avait une force qui les retenait. Nous, on continuait à marcher avec mon camarade. Et au bout de quelques minutes, on ne voulait pas se retourner. On continue. C'était comme une espèce de boule du temps dans laquelle on était là. Il tombe à genoux, il pleure. Moi aussi, je tombe à genoux avec lui. Il me dit, je croyais que je n'allais jamais revoir mon épouse ni mes enfants. On est vivant. Il me touche, je le touche. Je lui dis, oui, on est vivant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, je ne sais pas. J'ai prié, je fais la prière. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est là que j'ai réalisé que j'étais vraiment dans un miracle, que justement, c'était Dieu qui l'avait fait dans ma vie pour me donner cette opportunité et ce message dans lequel j'ai reçu à mon cœur. Il est temps que tu quittes ces lieux.
Alors, comment tu vas faire pour te détacher d'un système finalement qui est très très fermé et auquel on a du mal à partir, quoi?
Oui, il fallait que j'attende le bon moment parce que tu peux pas quitter tes engagements comme ça. Et quelqu'un est tombé malade, quelqu'un qui était haut placé. J'ai entendu dire pendant la nuit qu'ils allaient l'amener à un hôpital proche. Et là, je me suis dit, c'est le moment de m'échapper. Donc, j'ai tout bien planifié avec un autre gars. J'étais pas tout seul. Il y a un autre gars qui a voulu partir avec moi aussi. Et ce qu'on a fait, c'est que, on voulait pas tout perdre. Donc, la nuit, avant de notre départ, on savait où il y avait de l'argent, qui avait l'argent. C'était l'argent qui était à côté un peu pour toutes les personnes qui ont devait payer. Et nous, on a, On a attaché les gars qui étaient là, on l'a tapé, on a volé tout cet argent et on est parti avec cet argent. Alors, c'est incroyable parce que je savais que Dieu m'appelait à sortir de ces lieux. Et en même temps, je suis pas parti très propre. Et je suis parti avec mon assurance et que j'avais quelque chose. Mais en même temps, je sentais que j'étais en train de l'obéir.
Et à quel moment il y a le déclic final où tu te dis, bon, j'abandonne totalement cette vie, je renonce à cette vie pour suivre Dieu? Ça sera le mot de la fin.
Ça serait au moment où je rentre chez moi et je trouve une Bible chez moi. J'essaye de la lire et je tombe sur un passage dans lequel je lis que Dieu, c'est mon Père et que c'était Jean 15. Et ça m'a beaucoup touché de lire que Dieu était comme mon Père. Et je pense que c'est ça que j'avais besoin en tant que jeune. J'avais besoin d'avoir un repère. Et là, je me dis, je voudrais connaître alors si c'est Dieu qui m'a sauvé, qui c'est mon Père, je voulais le connaître. De manière miraculeuse, quelques jours après, un copain à moi vient à la porte chez moi, il frappe, il me dit, écoute Octavio, ça fait longtemps que je pense à toi, je voudrais te dire quelque chose. C'était un gars qui était aussi dans une vie très désordonnée. Et là, je me dis, mais ce gars-là, qu'est-ce qu'il va me dire? Il me dit, écoute Octavio, je suis en train de vivre une transformation. Il sort une Bible, il me dit, j'ai trouvé la vérité là. Et là, je suis surpris. Je lui dis, waouh! Moi aussi, je cherche. Il me dit, viens, je vais t'inviter dans son lieu ce week-end si tu veux venir. Je dis, allez, je viens avec toi. Je me retrouve le week-end dans une église en écoutant un pasteur qui va prêcher sur Jésus-Christ, sur sa mort, sur son salut, comment il est venu pour moi. Et là, je prie tout ça pour moi. Je me suis dit, waouh! Il est en train de me pardonner. Il va m'offrir une autre chance dans ma vie. Et c'est là que j'ai décidé d'accepter Jésus-Christ et changer de direction.
Waouh! Quel parcours incroyable, mais vrai. Avec Dieu, tout est possible.
Amen.
Et on va entendre la suite de ton témoignage dans une prochaine émission où tu vas nous raconter finalement comment Dieu est entré en scène dans ta vie, comment Dieu t'a retapé, changé, transformé, recyclé pour faire de toi l'homme que tu es. Mais ça sera dans la prochaine émission. Merci Octavio. Peut-être un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent.
Oui, les amis, je voudrais vous dire que quelle que soit l'étape que vous êtes en train de vivre, quel que soit le chemin, Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est un Dieu qui peut changer n'importe quelle circonstance. Juste appelle-le. Si est ton cœur, il y a un cri qui est sincère, il va se manifester. Il va se manifester avec deux choses. Avec son amour d'abord, parce qu'il t'aime, parce qu'il veut changer ta vie, mais avec sa puissance, parce qu'il peut changer les circonstances.
Yes! À très bientôt pour une nouvelle émission Face à Face. Ciao! C'était Yannis Gauthier et Octavio.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Face à Face sur emcitv.com.